Bonjour et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme chaque semaine, je vous fais partager une rencontre avec un acteur du monde artistique et culturel. Alors que la protection et la mise en valeur du patrimoine semblent être au cœur des préoccupations du ministère de la Culture, aujourd'hui nous allons parler archéologie, cette science qui nous fascine tous, qui nous aide à mieux comprendre l'histoire et qu'on ne connaît pas très bien finalement. Que signifie fouiller aujourd'hui? Quelles sont les grandes évolutions de l'archéologie en France? Pour développer ces thématiques, je suis ravie d'accueillir à mes côtés Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, archéologue, spécialiste notamment de la protohistoire européenne et de la Gaule, également professeur des universités. Bonjour Dominique Garcia.
Bonjour Julie.
Alors merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. En guise de préambule à cette interview, j'aimerais vous poser cette question. Peut-on dire que l'archéologie se porte bien en France aujourd'hui ?
Alors l'archéologie se porte bien quand on est du côté du public, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens aiment l'archéologie. Récemment, nous avons fait une belle exposition à la cité de la Villette et qui a accueilli près de 200 000 personnes pour voir un Moyen-Âge renouvelé grâce à l'archéologie. Donc voilà, l'archéologie se porte bien parce que le public la soutient. Mais effectivement, ça reste une discipline culturelle, patrimoniale, scientifique, donc difficile à mettre en œuvre et les deniers manquent.
Est-ce qu'on fouille aujourd'hui comme on fouillait il y a 40 ou 50 ans ?
Non, les techniques ont beaucoup évolué parce que l'archéologue, en fin de compte, se saisit des outils qui sont produits. Donc, on pourra aborder le sujet, mais il a travaillé avec des truelles de maçon, il travaille aujourd'hui avec des pelles mécaniques, il enquête aujourd'hui avec des outils qui permettent de restituer des éléments de 3D. Donc, la pratique technique a beaucoup évolué. Les objets archéologiques aussi ont évolué. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, l'archéologue, comme Indiana Jones, c'était le monsieur qui découvrait une statue ou un vase. Ensuite, ça a été le monsieur ou la dame qui découvrait des tessons. Maintenant, c'est le monsieur ou la dame qui découvre des sites archéologiques, des contextes avec des éléments sociétaux, environnementaux beaucoup plus larges.
Mais ça veut dire que l'archéologie vit avec son temps, que finalement, voilà, il n'y a pas que les objets qui sont pris en compte par les archéologues, il y a tout un contexte, les questions d'environnement, vous dites, expliquez-nous un petit peu.
D'environnement et de société, en fin de compte. Voilà, il y a un siècle, l'archéologue était un pourvoyeur d'objets pour son propre musée, son cabinet de curiosité, ou alors apporter des documents dans un musée. C'est un chercheur de trésors au sens large du thème. Aujourd'hui, un archéologue étudie les sociétés passées, étudie l'évolution de l'environnement, donc en fin de compte, a des problématiques, des questions qui sont plus historique, plus sociétale qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc le métier a changé, le point de vue a changé, les outils ont changé et l'objet de la recherche a changé également.
Et oui, c'est une science qui croise d'autres sciences. On peut croiser par exemple des historiens, des ethnologues et des archéologues qui peuvent travailler ensemble sur un même thème. Toute cette évolution de l'archéologie a entraîné peut-être un changement au cœur du métier de l'archéologue.
L'archéologue, il y a quelques décennies, c'était Indiana Jones avec son chapeau, son fouet, son piochon et qui menait des ouvriers sur son terrain. Aujourd'hui, un archéologue, c'est avant tout une équipe. Ça n'existe pas l'archéologue seul.
Il y a la transmission
qui est essentielle et puis il y a le fait que l'archéologie est devenue transdisciplinaire. Mmh. On a sur nos chantiers des spécialistes de l'anthropologie qui étudient les ossements humains, on a des spécialistes des pollens, on a des spécialistes de la géologie, on a des spécialistes de l'architecture. En fin de compte, on ne peut pas travailler seul. Il n'y a plus un archéologue, il y a une équipe d'archéologues qui s'approprie une série de questions et parfois quelques réponses.
Alors, vous parliez de la truelle. Évidemment, l'archéologue donc n'est plus juste avec sa truelle, ni n'est plus juste Indiana Jones qui va à la recherche de trésors mystérieux et fascinants. Enfin, aussi, bien sûr, mais pas que. L'archéologue, aujourd'hui, a à sa disposition de nouveaux moyens modernes, technologiques. On pense aux nouvelles technologies, notamment celles qui permettent la numérisation des sites, la numérisation d'un terrain archéologique. Est-ce que sur les chantiers aujourd'hui, c'est un réflexe maintenant de procéder à ce genre de choses.
Il y a les deux étapes. C'est-à-dire l'étape d'abord, c'est la détection du site, retrouver un site. Traditionnellement, l'archéologue, là aussi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, soit recherchait un site qui était évoqué dans un texte, on parlait, voilà, Alésia, cité par Jules César, et du coup, l'archéologue allait rechercher le site d'Alésia. La première démarche. La deuxième démarche, il se promenait au hasard, on appelle ça des prospections, à la recherche d'un site archéologique. Et ensuite, éventuellement, il l'étudiait. Aujourd'hui, l'archéologue continue à étudier les textes pour déceler les sites qui sont évoqués dans les textes historiques, continue à aller sur le terrain pour retrouver des sites, mais également utilise des moyens. Aujourd'hui, les photos satellitaires permettent de retrouver des formes qui sont non naturelles, et ensuite, bien entendu, il faudra toujours aller sur le terrain. Mais au départ, les images satellites, les images 3D, voir la photogrammétrie, voir la géophysique, c'est-à-dire que sans des méthodes que l'on appelle non-invasives, sans avoir à fouiller, parfois on peut avoir une image de ce qu'il y a sous la terre, voire sous l'eau, ce qui peut nous donner quelques orientations, et ensuite on ira sonder, on ira fouiller pour dater la forme, l'objet, et ensuite essayer de bâtir une histoire tout autour. Donc ça, c'est un élément de recherche des sites, et ensuite il y a un élément de restitution. Il faut voir que l'archéologue est, entre guillemets, un destructeur. Une fois que l'archéologue sera passé sur le terrain, il y aura moins de couches archéologiques, moins d'objets, voire même pour étudier, mettons, les fondations d'un temple ou d'une maison, il sera obligé de démonter ce temple et cette maison. Donc il est important pour l'archéologue de restituer par l'étude. Certes, les conférences, les publications, les expositions, mais également des images virtuelles aujourd'hui qui permettent de restituer un site et aussi de le partager avec les spécialistes et avec un grand public.
Donc il vaut mieux préférer la réalité virtuelle à une reconstitution en dur, peut-être. Par exemple, je pense au site de Knossos en Crète, où il y avait eu, mais là il y a bien longtemps, oui, un essai de reconstitution en trois dimensions et en dur de certains éléments du site archéologique, pour que le public finalement se rende mieux compte. Par exemple, quand on va à Pompéi, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer la ville, voilà, qui avait trois dimensions. Quand on est néophyte et qu'on n'est pas, disons, bercé par l'archéologie, on a du mal à se rendre compte. Par exemple, à Pompéi, la réalité virtuelle serait extraordinaire, je pense.
On se sent déçu par Pompéi, et je l'ai été, même archéologue, moi aussi, à Pompéi, un peu plus rassuré par Herculanum, juste à côté, parce que justement, vous voyez, non, là aussi, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire l'archéologue veut restituer, et donc une image, un dessin, des maquettes, ça a toujours existé. Déjà, même dans l'Antiquité, même les Égyptiens restituaient des monuments en maquettes pour donner une vision en 3D. Et donc aujourd'hui, ces maquettes qui ne sont plus en céramique ou en bois ou en plâtre sont effectivement numériques, permettent d'être transférées. Et cette restitution en 3D, comme on fait un petit croquis pour montrer sa maison à quelqu'un, voilà, un petit dessin de ce type-là, permet de transposer une information et d'échanger, de discuter sur un document. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la présentation d'un site en réalité augmentée, des restitutions, des maquettes. On a beaucoup échangé à propos de Lascaux 4, à propos de Chauvet. Conserver aujourd'hui des grottes ornées est un enjeu majeur, parce qu'on sait que ces grottes ne sont pas faites pour être fréquentées par des millions de personnes. Et donc aujourd'hui, on produit des maquettes de qualité, et dans lequel effectivement le fait de s'approcher au plus près et de manière facile, parce que c'est pas si simple d'aller dans Chauvet, pas si simple d'aller à Lascaux, encore moins à Cosquer qui est sous l'eau. Donc aujourd'hui, quand on a ces maquettes 3D, ben, les gens vont au plus près et donc ont droit à des éléments d'émotion. Et mettons, Lascaux est présent, je crois, en Chine, sera Lascaux 3 présent en Afrique du Sud dans quelques mois. Donc ça permet, voilà, de quand les gens ne bougent pas, les sites peuvent se rapprocher, ce qui est paradoxal d'eux. Donc ça, c'est une belle chose grâce à ces entreprises aujourd'hui de restitution 3D. Et puis après, reste l'émotion que l'on peut tous partager, voilà, de se promener à travers des ruines, l'aspect romanesque ou romantique. Et donc, à Pompéi, ma foi, si on ne comprend pas tout, il y a les cyprès florentins, les lauriers roses, c'est pas très désagréable aussi.
Alors, Dominique Garcia, vous êtes président de l'INRAP. Si on parle un peu plus précisément, justement, de cette institution, c'est une institution donc qui exerce des fouilles préventives, c'est-à-dire des fouilles décidées suite à des travaux d'aménagement du territoire publics ou privés. Alors régulièrement, aux informations, on entend parler de découvertes archéologiques hein, dans le cadre de ces fouilles préventives. Sur combien de chantiers, justement, est présent l'INRAP actuellement ?
Alors l'INRAP intervient à deux niveaux, sur prescription de l'État. Nous sommes un établissement public et donc on intervient sur prescription de l'État. Premièrement, dans le repérage des sites, ce qu'on appelle les diagnostics. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on veut construire un parking. On sait qu'il peut y avoir un site, on ne connaît pas son état de conservation, son intérêt scientifique. Et donc là, l'INRAP intervient sur prescription de l'État pour voir si le site est bien conservé ou pas, s'il mérite une fouille ou pas. Et donc ce type d'implantation, nous, on partage cette activité avec des collectivités territoriales. Et il y a environ 2000 sites par an qui sont explorés.
En France.
En France, voilà.
Est-ce que vous êtes présent à l'étranger ?
On est un peu présent, on vise à diffuser nos techniques à l'étranger, mais voilà, on a une expérience récente au Cambodge, une expérience récente en Algérie, une de nos équipes revient du Paraguay pour faire une expérimentation de ce type-là, mais voilà, on est essentiellement sur la France. Donc le diagnostic, 2000 opérations par an environ, et puis si le site est important, l'État peut prescrire une opération archéologique d'envergure, c'est une opération donc bien plus importante, et là c'est environ 300-400 opérations par an qui sont réalisées. Voilà.
Vous parlez de l'expertise de l'INRAP en France. Est-ce que la France est, entre guillemets, à la pointe dans ce genre d'études ou d'autres pays ont le même type d'établissement
que... Alors, l'INRAP est le plus grand établissement au point de vue européen. Et donc, la France, avec cette loi qui date de 2001 et révisée en 2003 sur l'archéologie préventive, s'est dotée d'un établissement public qui permet d'accompagner l'aménagement du territoire en réalisant des fouilles préventives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans certains pays, vous parliez tout à l'heure de l'Italie, le patrimoine est sacralisé. Il y a un site archéologique, on ne construit pas. Ce qui a été longtemps le cas en France de 1941, une loi sur le patrimoine, jusqu'en 2001. En fin de compte, quand on dit qu'on sacralise, bien souvent on se ferme les yeux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soit on ne construit pas, soit on n'aménage pas, soit on aménage en douce, et le patrimoine est détruit. Donc pendant, entre, on va dire, des années 1950 à 2000, les archéologues, mais aussi les citoyens, se sont rendus compte qu'on détruisait beaucoup de patrimoine, alors qu'on avait une loi qui protégeait le patrimoine. Et les archéologues, moi j'ai commencé ma carrière de cette manière-là, à pratiquer ce qu'on appelait l'archéologie de sauvetage, un petit peu comme le SAMU de l'archéologie. Un aménageur construisait sa maison, construisait une maison, on construisait un parking, on tombé, comme on disait, sur des vestiges archéologiques par hasard. Les archéologues, l'aménageur arrêtait les travaux si on pouvait lui faire arrêter les travaux, ou sinon on intervenait le soir ou le week-end et on fouillait à la va-vite. Petit à petit, la chose maintenant s'est transformée et on fait de l'archéologie préventive, c'est-à-dire que l'État, si on sait qu'il peut y avoir un site archéologique, prescrit un diagnostic, ensuite il y a un appel d'offres, l'aménageur choisit son opérateur pour réaliser la fouille archéologique, nous, les collectivités ou des opérateurs privés, nous réalisons l'opération et ensuite le terrain est laissé libre la plupart du temps à l'aménageur puisque les données ont été collectées. Donc en fin de compte, on n'attend pas que le site vienne à nous. On produit des sites archéologiques, on produit des données. La France a mis en œuvre un système qui est la préservation par l'étude. Plutôt que de sanctuariser, fossiliser les sites archéologiques, certains sont classés monuments historiques, certains travaux d'aménagement sont modifiés pour préserver le site, et d'autres sont fouillés parce qu'on estime qu'un site fouillé, c'est un site connu dont la connaissance est partagée.
Est-ce que vous auriez par hasard un exemple qui daterait d'avant cet encadrement lié à la création de l'INRAP, encadrement donc des fouilles, de pertes archéologiques importantes?
Alors, si je dis que au départ, le système n'est pas né des archéologues mais des citoyens, c'est qu'il y a eu bien entendu un grand mouvement.
Même inconscient, hein, je veux dire.
Oui, non, mais bien entendu, c'était pas inconscient, c'était l'après.
Je ne parle pas de vandalisme, je parle juste d'une destruction.
Non, pas du tout, c'était voilà. Un constat, une frustration, mais c'est pas du vandalisme dans dès l'après-guerre, en fin de compte, de 1950 aux années 1990, en fin de compte, quand les villes sont reconstruites, quand on est sorti des remparts médiévaux et modernes qui marquaient encore les paysages urbains en France jusqu'aux années 1950, on a découvert des sites archéologiques, mais comme on avait besoin de logements, comme on en a encore besoin aujourd'hui, comme on avait besoin de construire des routes, des parkings, on a détruit beaucoup. Et les gens se sont aperçus qu'on gommait, on construisait des villes modernes, mais on gommait le passé, et on a essayé de trouver un point d'équilibre qui est donc l'archéologie préventive.
Mais est-ce qu'il y a eu une perte majeure, par exemple, que vous auriez un exemple
à... Ah, mais il est bien évident que tous les centres-villes des villes antiques, les centres de Lyon, le centre de Marseille, le centre d'Arles ou de Narbonne, voilà, une belle expérience qui est menée actuellement à Narbonne, où un collège aujourd'hui fouille la cour du collège, parce que quand le collège a été construit, bien entendu, on a détruit des vestiges. Et aujourd'hui, les collégiens, guidés par des archéologues, fouillent dans la cour du collège, où on retrouve les traces du passé.
Donc vous rattrapez les erreurs du passé.
On essayait de gommer quelques erreurs.
Alors, plusieurs chantiers, donc vous avez dit près de 2000 chantiers par an visés par l'INRAP. Alors, pourtant, en ce moment, certains parlent de crise dans le secteur de l'archéologie préventive. Des opérateurs privés sont en difficulté, donc aux côtés de l'INRAP, il y a aussi donc des opérateurs privés. Pensez-vous justement qu'il y a de la place pour tout le monde, autant pour l'INRAP que pour des opérateurs privés, donc, mais ça amène à une sorte de mise en concurrence qui n'est pas forcément très agréable dans le secteur de l'archéologie, un secteur que l'on pense plutôt d'un service public, lié au service public, d'intérêt général. Est-ce qu'effectivement, cette mise en concurrence, ce marché, entre guillemets, de l'archéologie est opportun aujourd'hui?
Alors, il y a les réalités qu'on ressent tous, c'est-à-dire qu'on a bénéficié d'une enquête de Harris Interactive récemment qui montre qu'une majorité, une large majorité même des citoyens, pensent que le patrimoine est un bien commun, que par définition, c'est quelque chose qui n'est pas privé, et que bien entendu, la recherche scientifique est avant tout une recherche publique. Donc ça, c'est un constat, un ressenti des citoyens. Et il y a bien entendu le fait que depuis 2001, quand la loi a été créée, c'était essentiellement le domaine public qui investissait cet espace-là. Et puis en 2003, la loi a changé pour se mettre en conformité, nous dit-on, à des directives européennes, et ainsi faite la loi, donc depuis 2003.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, en tant qu'archéologue?
Les dérives sont trop nombreuses pour qu'on soit totalement d'accord, même pas en tant que président de l'INRAP, mais tout simplement en tant qu'archéologue, parce que justement l'attention qui est portée au patrimoine, qui est un bien commun, doit être normalement poussée par l'intérêt de la recherche, par l'intérêt de la transmission, par la volonté de connaître et de partager un bien commun, et pas forcément dans l'intérêt de faire de l'argent. Le patrimoine n'est pas essentiellement fait pour ça, on en conviendra tous. Alors bien entendu, aujourd'hui, dans les différents opérateurs qui interviennent sur le terrain, c'est l'État, le service du ministère de la Culture, qui assure ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique. Et donc un contrôle scientifique et technique fait de manière ferme, avec des moyens importants, permettrait sans doute à tous de faire le même travail et de rendre l'activité moins commercialement rentable.
Il faudrait une entente, en fait.
Ah non, il ne faut pas une entente, il faut un contrôle. Il faut que tout le monde travaille avec des mêmes règles. Moi, j'ai, il y a quelques années, assisté à un site fouillé à Tremblay de façon extrêmement maladroite par des archéologues. C'était des gens qui étaient bien formés au départ, mais sur la pression, par les manques de moyens, la pression économique faisait que le site a beaucoup souffert au moment où moi je l'ai vu. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est tous responsables de ce patrimoine.
Ça conduit un peu à une archéologie faite au rabais, en fait.
Il faut pas que l'archéologie soit faite au rabais.
Voilà. Bien sûr.
Et je ne pointe personne et je n'accuse personne, mais c'est un bien commun. On a tous été formés pour faire de l'archéologie et mon travail à moi à l'INRAP, c'est que l'on conduise cette activité dans les règles de l'art.
Alors, on va parler maintenant de chantiers de fouilles actuels dans la région parisienne, puisque le projet du Grand Paris Express amène évidemment à des travaux de grande envergure. Qui dit travaux dit fouilles préventives, hein, comme on vient de l'expliquer. Dominique Garcia, quelques exemples peut-être pour que les auditeurs, s'ils habitent à côté, puissent bien être sensibilisés à cette archéologie. Des exemples de fouilles justement sur le Grand Paris
Alors,
Express.
Pour nous, c'est un véritable défi parce que c'est une grande opération, enfin pas que pour nous, hein, pour les Parisiens, pour les aménageurs publics et pour des aménageurs privés. C'est une opération extrêmement importante qui redessine en fin de compte, qui redéfinit un territoire. Et donc aujourd'hui, il va falloir que ce territoire vive et que les gens s'approprient ce territoire. Et pour nous, archéologues, c'est quelque chose qui est intéressant. Pas uniquement parce qu'il y a des travaux, parce que moi, archéologue, il n'y aurait pas de travaux, le patrimoine ne serait pas détruit, ça m'irait très bien.
Mais oui, il ne serait peut-être pas visible.
Alors, il ne serait pas visible. Alors justement, c'est là le défi, votre question est juste. Pour nous, redessiner ce territoire parisien grâce aux travaux du Grand Paris, c'est redonner en fin de compte vie, j'espère que je vais être clair, à un territoire qui a réellement existé. En fin de compte, Paris intramuros, la ville de Paris, c'est quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui n'est pas si vieux. C'est quelques générations, voilà, le début de l'Antiquité, et ensuite quelque chose qui va agrandir dans les siècles des deux derniers millénaires. Mais dans l'histoire de l'homme dans ces régions, ce n'est pas grand-chose. Or, l'espace territorial du Grand Paris, tel qu'il va être aujourd'hui redessiné, reprend des espaces qui ont une réalité, au néolithique, aux âges des métaux. Et donc pour nous, aujourd'hui, on va fouiller sur ces sites-là et raconter l'histoire d'un territoire qu'on est en train de recréer aujourd'hui. Et donc, dont les citoyens qui, dans quelques années, vont prendre le métro, vont en fin de compte faire une circulation qui existait au néolithique ou à l'âge du bronze. Donc, la tentation est importante. Et ensuite, il y a le choix, la qualité des découvertes. Récemment, il y a eu une fouille à Vitry, à l'emplacement d'une gare importante sur le tracé du Grand Paris. On a découvert une nécropole païenne. Ensuite, une nécropole, quelques tombes qui sont des nécropoles, des tombes chrétiennes, et des aménagements de jardins des périodes modernes. Et là, c'était intéressant parce qu'on fouillait là au milieu de la ville de Vitry avec une population qui est venue voir la fouille. Il y avait des enfants qui sont venus voir le terrain et qui ont dit tiens, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui ont changé de religion, il y a des gens qui ont habité ce territoire, l'endroit où les gens venaient jouer, se promener. Voilà, il y avait sous eux des gens qui étaient venus avant eux, qui avaient vécu là, et donc on leur a raconté cette histoire-là. Il y a eu une exposition, il y a eu des conférences. Nos archéologues ont accueilli sur le terrain des jeunes enfants qui ont transmis ça chez leurs parents. Donc là, quand on fait de l'archéologie, il n'en faut pas beaucoup pour qu'on s'enthousiasme dans le fait qu'un chantier de construction devienne aussi un lieu d'éducation, un lieu de partage, un lieu de culture, un lieu de science. Voilà, à Vitry, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de gens qui font de la culture, il y a beaucoup de scientifiques. Mais quand même, là, il y en avait un peu plus parce que l'INRAP était présent et qu'on a partagé nos découvertes avec les citoyens, avec les gens qui étaient présents.
Donc plein de belles découvertes sûrement à venir, et puis l'occasion de mettre en valeur des villes aussi grâce à l'archéologie.
Bien entendu. Alors des belles découvertes, là aussi il faut être humble. Il y a des découvertes surprenantes, il y a des découvertes de qualité, mais il y a aussi des petites découvertes qui permettent de raconter une longue histoire. Parfois il peut y avoir des frustrations, des gens qui disent tiens, attendez, les archéologues sont là, mais vous avez vu, il n'y a que deux murs, il n'y a que quelques tombes, mais en fin de compte deux murs plus deux murs plus deux murs, ça dessine une ville. Donc il faut savoir admettre que chaque opération est une pièce d'un puzzle et que, avec un peu de recul, quelques années, on arrivera à reformuler, à recréer ce puzzle plus ancien, celui de notre histoire.
Alors justement, on parle de petites découvertes ou de plus grandes découvertes. Vous, en tant qu'archéologue, vous avez un regard, vous avez un recul sur l'archéologie de ces dernières décennies. Quelle est, selon vous, la grande découverte, peut-être la grande fouille exceptionnelle de ces dernières décennies, puisqu'on parle de fouilles dans cette émission ?
Alors, dans les belles fouilles que j'ai pu voir, moi, alors je vous l'avais dit, je suis proto-historien, je m'intéresse aux Celtes, je m'intéresse aux Gaulois. Et il y a 3 ans, l'INRAP a fouillé dans la banlieue de Troyes, à Lavaux, une tombe princière. Alors, elle est reconnue par tous les spécialistes au niveau européen comme étant la découverte majeure ces dernières années. Une tombe d'un prince celte des environs de 480 avant Jésus-Christ, qui avait été enseveli là avec un grand vase qui venait d'Étrurie ou de Grèce, une nocoë à figure noire, un torcanor de 800 grammes, des bracelets, etc. Donc beaucoup de richesses pour ce prince-là, une belle fouille et surtout bien fouillée par l'INRAP et aujourd'hui voilà, analysée dans les sous-sols du musée du Louvre et qui va faire l'objet au printemps d'une belle exposition à Troyes, voilà, et qui va être inaugurée et partagée avec le plus grand nombre. C'est ça, une belle découverte. C'est une découverte que l'on peut partager et la fouille de Lavaux, parmi tout ce qu'on fait chaque année, fait partie de ces découvertes. J'étais il y a 10 jours dans le nord de la France, voilà, dans la vallée de l'Aa, où on a découvert voilà, une résidence d'évêque du Moyen-Âge avec 200 mètres carrés de sol pavé, historié. C'était la résidence d'été des évêques de Thérouanne, quelque chose qui n'était pas connu. Les évêques de Thérouanne sont connus dans les textes, on ne connaissait pas leur résidence d'été. La fouille a permis de le démontrer, donc on fournit des archives du sol aux historiens et aux chercheurs.
Et vous, en tant qu'archéologue, j'imagine que c'est une vocation, c'est l'émotion qui vous guide, qui vous a guidé quand vous avez... Quand vous avez voulu devenir archéologue, voilà. L'émotion de la découverte ou
c'est l'émotion plutôt... l'émotion qu'on partage tous, quoi, quand on est petite fille ou petit garçon, parce que on a tout ça, quoi. Il y a toujours un moment où dans la rue, je défie quiconque, même des gens qui s'intéressent pas à l'archéologie, qui enfants ne sont pas baissés pour ramasser un fossile, n'ont pas trouvé un silex, n'ont pas frotté sur leur pantalon. Voilà, un petit enfant, une petite fille dont jamais la maman n'a vidé les poches pour retirer des cailloux qui avaient été trouvés dans le sol, ça n'existe pas. Il y en a d'autres, certains abandonnent cette manie de ramasser les choses par terre et d'autres continuent, en font leur métier. Mais voilà, c'est un peu s'inscrire dans un paysage. Mmh. On a envie, quand on... voilà, moi, ça a été mon envie. J'ai voulu comprendre ce qui se passait autour de mon village, puis ce qui se passait en limite de mon département.
Et puis aujourd'hui, c'était où ça, votre village?
Moi, je suis, comme ça s'entend, je suis languedocien. Et donc voilà, j'allais dans les vignes du Languedoc et puis je regardais par terre. Et puis voilà, la terre qu'on travaillait autour de moi, c'était une terre qui avait vécu avant et dont je voyais qu'elle se transformait. Et ça m'intéresse de connaître son passé pour essayer non pas de me projeter dans le futur, mais essayer voilà, de trouver ma place.
Les musées fouillent aussi. Le 29 novembre dernier, vous étiez à une table ronde, vous animiez une table ronde consacrée aux fouilles donc faites par les musées. Le musée du Louvre, évidemment, est un grand musée qui fouille beaucoup à travers le monde. Le thème, c'était « Pourquoi un musée fouille-t-il ? » Est-ce que, rapidement, c'est quoi la réponse à cette question ? Parce que finalement, un musée conserve, un musée restaure, un musée protège, transmet, explique. Est-ce que le musée a aussi le temps d'aller fouiller ?
Alors, la question que vous posez, c'est la question que s'est posée le conseil scientifique du Louvre auquel j'appartiens, la question que s'est posée le président donc, du Louvre, Jean-Louis Martinez. Ce sont des vraies questions. Et ensuite, on a essayé d'y répondre, et chacun des chefs de mission des départements scientifiques du Louvre est venu présenter son point de vue. Et le point de vue était divers. On s'est aperçu que déjà, une fouille, c'est un endroit où on échange, où on produit de la connaissance. Et aujourd'hui, quand les gens vont dans un musée, c'est pas uniquement pour dire « tiens, il y a une belle pièce, c'est beau ». On aime avoir à connaître les contextes, les paysages, savoir comment a fonctionné cette civilisation, comment cette culture est née, comment ensuite éventuellement elle a terminé. Et donc une fouille, c'est un endroit où on écrit une histoire.
Mais c'est vrai que, enfin, je trouve moi en tant que visiteuse de musée, ouais, que effectivement on visite un musée, on voit des beaux objets, on voit plein d'objets archéologiques, mais finalement les grandes fouilles ne sont pas vraiment expliquées dans le parcours du visiteur.
Alors, c'est justement... C'est-à-dire
qu'un visiteur peut aller au Louvre sans savoir que le musée fouille.
Alors c'est justement le grand défi, et c'est l'intérêt de cette table ronde, c'est de montrer qu'on peut rétablir le lien entre les objets et les sites, contextualiser les objets et mettre en place, en perspective, ces objets. L'INRAP, mettons, collabore à une belle fouille du musée du Louvre à Gaby, c'est juste à côté de Rome, où au XVIIIe siècle ont été découverts une série impressionnante de belles statues qui étaient au Louvre. Elles avaient été retrouvées là au XVIIIe siècle, achetées et déposées ensuite au Louvre, on peut les voir, mais on ne connaissait pas le contexte. Et aujourd'hui, la fouille permet de redonner un cadre à ces découvertes. Donc, les musées se doivent de fouiller pour nourrir les collections, pour échanger, pour former les ensembles auxquels ils collaborent et pour donner des contextes précis aux lieux de découverte.
Alors, les fouilles font avancer la connaissance historique, fabriquent l'histoire. Est-ce qu'il y a des périodes historiques qui sont encore très mal connues et que des fouilles pourraient amener à mieux connaître ?
Alors, les grands défis ont été pour essentiellement des périodes où il y avait beaucoup de textes. En fin de compte, on disait, tiens, le Moyen-Âge, il y a des écrits, on connaît tous les châteaux, on lève la tête, on voit Notre-Dame. On a tous, sur la crête d'une petite colline, un château qui se détache. À quoi ça sert de faire de l'archéologie ? S'il y a des élévations, s'il y a des textes, s'il y a des documents qui racontent tout ça. Et donc, c'est valable pour le Moyen-Âge, c'est encore plus valable pour la période moderne, est encore plus valable pour la période contemporaine. On s'aperçoit que l'archéologie, notamment l'archéologie préventive, a permis de documenter différemment ces périodes-là. Et c'est là où l'apport est le plus important. Le Moyen-Âge, qui était décrit par les châteaux et les églises, à la limite le pouvoir politique et le pouvoir religieux, aujourd'hui, on connaît l'aménagement qui a été fait à ces périodes-là, la création des marais, la création des champs, les moulins qui ont été mis en place, la vie quotidienne des populations. Et tout ça, c'était pas connu, parce que c'est pas relaté dans les chroniques comme aujourd'hui, les journaux ne raconte pas tous les jours la vie quotidienne des gens. Donc ça, c'est important. Pour les périodes modernes aussi, on a pu documenter des éléments économiques, des éléments sociaux. Et puis, un exemple, moi, que je n'aurais pas imaginé, justement, qui ne m'aurait pas fait rêver il y a 50 ans, c'est celui des fouilles des conflits. Or, ces dernières années, on a pu fouiller les emplacements de grandes batailles de 14-18 et on a pu retrouver, mettons, les camps retranchés, les endroits où on soignait les prisonniers, les jardins que les soldats avaient mis en œuvre aussi parce qu'ils savaient, eux, sans doute, que la guerre allait durer et dont certains avaient une pratique de paysans et mettaient en place des petits jardins. Ces choses-là qui n'étaient pas documentées par les grands récits, l'archéologie a permis de les mettre en avant.
Oui, c'est-à-dire que l'archéologie raconte souvent la petite histoire, la vie quotidienne.
Oui, la petite histoire, la vie quotidienne, en fin de compte, des pièces qui permettent ensuite de repenser plus globalement la grande histoire aussi.
Alors, deux petites questions avant de se quitter, Dominique Garcia. Pour finir, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut devenir archéologue aujourd'hui ?
Alors, déjà, de ne pas trop en parler à ses parents pour ne pas l'effrayer, parce qu'il y a bien des travaux bien plus sérieux, l'informatique, l'économie, etc., policiers. Donc, du coup, pas trop en parler à ses parents, non, c'est pas vrai. Partager l'émotion, garder la curiosité, c'est ça, la curiosité et l'émotion qui est importante. Et ensuite, échanger, bouger, voyager s'il le peut, mais aussi lire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui permettent de faire de l'archéologie. Et peut-être... alors là, à contre-courant, plutôt que d'essayer de savoir presque tout sur presque rien, essayer peut-être d'exercer sa curiosité un peu partout, parce que on a besoin de spécialistes, mais on a besoin aussi de généralistes, de gens qui apprécient un espace, une grande période, s'intéressent à l'ensemble des cultures et éviter le cloisonnement. On a vu peut-être ces dernières années trop d'hyper spécialistes.
Mais il y a des débouchés pour un archéologue.
Tant qu'il y aura de l'émotion, tant que les gens s'intéresseront à leur patrimoine, je crois qu'il y a plus de débouchés qu'il y en avait il y a 30 ans. Mais bon, restons sérieux quand même, quoi. Il y a plein de métiers plus utiles à la société que l'archéologie. Et donc, on ne produira pas des masses d'emplois dans l'avenir, mais on aura besoin de gens compétents. Et les gens motivés et compétents, ils trouveront leur place.
Alors justement, on parle d'avenir. Pour terminer, l'archéologue du futur, pour vous, comment vous l'imaginez ?
Alors, vous voyez, moi, je fais de l'archéologie parce que j'essaie de raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Raconter de l'histoire de ce qui va venir, c'est pas mon métier, j'y arrive pas beaucoup. L'archéologue du futur, ça, c'est vraiment...
Non, mais au lieu de la truelle, il aura quoi ? Il aura...
Mais il aura toujours la truelle. Non, pardon. C'est pas pour vous contredire, c'est parce que je suis persuadé que, justement, si l'archéologue du futur existe, mais bon, vous me direz-vous si je me suis trompé, y compris si je ne suis plus là, que si l'archéologie du futur existe, elle existera par ce rapport au territoire. Plus l'espace va être globalisé, plus les gens vont bouger, plus ils auront besoin, non pas de connaître leurs propres racines, leurs propres origines, mais de savoir où ils mettent les pieds. On a besoin de savoir où on met les pieds, et donc l'archéologue du futur sera celui qui s'intéresse à l'endroit où les gens vont mettre les pieds, et pas forcément qui cherchera à connaître ses origines à lui. qui est souvent une démarche qui a été malsaine, quoi, de connaître un petit peu, d'affirmer son histoire. Là, il essaiera peut-être
auto-centré.
Voilà, auto-centré, de bâtir, voilà, ce qu'on appellerait le roman national ou autre. C'est quelqu'un qui ira, voilà, pour essayer de donner une assise à ces populations qui bougent, qui migrent, qui construisent.
D'ailleurs, c'est votre thématique, hein, l'archéologie des migrations. Vous en avez beaucoup parlé ces derniers temps.
Ces derniers temps, on en a beaucoup parlé parce qu'on avait fait un colloque, l'INRAP. Voilà, produit chaque année un colloque sur des thématiques sociétales, celles qu'on peut partager avec le citoyen. Donc il y a eu l'archéologie migration dont on a beaucoup parlé parce qu'il y avait, voilà, la juxtaposition des deux termes qui parfois peuvent être, voilà, faire rêver ou inquiéter. Mais on a travaillé aussi sur l'archéologie de la santé et en ce moment c'est déroulé récemment un colloque sur l'archéologie de l'apprentissage. Donc ça aussi, voilà,
comme quoi il y a toute forme d'archéologie finalement.
Voilà, et peut-être demain une archéologie de la musique. Je crois qu'au Louvre-Lens, il y a même aujourd'hui une exposition qui s'intéresse à, voilà, aux thématiques des musiques dans l'Antiquité, donc qui intéressera les auditeurs d'Art District.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dominique Garcia, je rappelle donc que vous êtes le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. J'étais ravie de partager avec vous ce moment qui nous a un peu éclairé sur l'archéologie en France aujourd'hui et sur la nécessité de continuer à fouiller avec une truelle. Merci beaucoup.
Merci.
Dominique
Merci
Garcia.
Beaucoup.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.